Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Au Tchad, la junte au pouvoir a nommé dimanche un gouvernement de 40 ministres et secrétaires d'État dirigé par le premier ministre de la transition, Albert Payimi Padake. Selon l'AFP, Saleh Kebzabo, qui était le principal opposant au défunt président Idriss Déby Itno, a reconnu dimanche les nouvelles autorités et deux membres de son parti, l'UNDR, ont été nommés au poste de ministre de l'élevage et de secrétaire général adjoint du gouvernement. On reconnaît l'autorité du CMT, sinon on ne va pas être au gouvernement, a déclaré à l'AFP M. Kebzabo, qui n'entre pas lui-même au gouvernement. Nous reviendrons dans quelques instants sur la composition de ce gouvernement avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar. Au Niger, des autorités locales ont indiqué hier que 16 soldats nigériens ont été tués et un autre porté disparu à la suite d'une embuscade dans la zone de Tilia, dans la région de Taoua, proche du Mali. Nathalie Barge nous donnera les détails. Le Nigeria va restreindre l'accès à son territoire à tous les voyageurs étrangers ayant séjourné au cours des deux semaines précédentes au Brésil, en Inde et en Turquie, afin de limiter la propagation du coronavirus, ont annoncé les autorités sanitaires. Les citoyens nigérians et les résidents permanents qui se sont rendus dans un de ces trois pays dans les 14 derniers jours devront à leur arrivée se soumettre à une quarantaine obligatoire d'une semaine dans une structure homologuée par le gouvernement. L'Inde déplore près de 400 000 nouveaux cas de COVID-19. On y déplorait aussi 3 689 décès supplémentaires dimanche, soit la plus forte augmentation en une journée pour un bilan total de plus de 215 000 morts. Elle a continué à recevoir de l'aide médicale en provenance de l'étranger, destinée à soulager les hôpitaux saturés de malades en manque d'oxygène. Hôpitaux, morgues et crématoriums restent débordés. Fin des restrictions de déplacement et retour partiel des collégiens et lycéens en classe, les contraintes liées à l'épidémie de COVID-19 commencent à se desserrer lundi en France sur fond de lente décrue des hospitalisations, mais le corps médical appelle les Français à ne pas relâcher leur comportement. Les combats entre les forces gouvernementales afghanes et les talibans ont fait plus de 100 morts chez les insurgés au cours des dernières 24 heures, a déclaré dimanche le ministère de la Défense, qui a par ailleurs repris le contrôle d'une base américaine. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé que la Chine défiait l'ordre mondial en agissant de manière plus répressive et plus agressive dans une interview diffusée dimanche par la chaîne CBS. La Chine est le seul pays dans le monde ayant la capacité militaire, économique, diplomatique de saper ou de remettre en question l'ordre fondé sur des règles auxquelles nous tenons tant et que nous sommes déterminés à défendre, a poursuivi le chef de la diplomatie américaine, arrivé hier à Londres pour une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Le département d'État américain a démenti dimanche des informations de la télévision d'État iranienne faisant état d'un échange de prisonniers avec l'Iran, alors que Téhéran a confirmé une annonce de la télévision libanaise Al-Mayadeen selon laquelle un échange était en cours. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a dénoncé dimanche comme une grosse erreur des propos de son chef de la diplomatie une semaine après la fuite d'un enregistrement dans lequel Mohammed Javad Zarif semble critiquer l'influence de l'armée sur la diplomatie. Un bateau surpeuplé transportant vraisemblablement des migrants clandestins a fait naufrage dimanche sur la côte de la Californie, près de la frontière mexicaine, faisant 3 morts et 27 blessés, selon les autorités. Le Monde aujourd'hui, VOA, Afrique, Washington, D.C. La suite de nos informations. Au Tchad, une semaine après sa nomination à la tête de la primature par le Conseil militaire de transition, Albert Pahimi Padake a rendu public ce week-end à N'Djamena la liste de son gouvernement. Un gouvernement de 40 membres, 31 ministres, 8 secrétaires d'État et un secrétaire général adjoint du gouvernement. Un gouvernement relativement jeune qui conduira la transition pour une période de 18 mois renouvelable une fois. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kotmajingar.
Décret 06 bar, président du Conseil militaire de transition.
Le porte-parole du Conseil militaire de transition, le général de brigade Azem Bermandoa Aguna, annonçant les membres du gouvernement de transition à la télévision nationale. Un gouvernement sans enjeu, puisque les principaux partis d'opposition ont refusé la perche qui leur a été étendue, à l'exception de l'opposant Mahamat Amata Alabo.
Ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Mahamat Amata Alabo.
Et la première patate chaude qu'il aura sur la table, c'est le dossier de plus de 700 manifestants arrêtés lors des différentes manifestations que lui-même et ses compagnons d'hier ont lancé le mot d'ordre pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel et la démission du CMT. Deux anciens rebelles ralliés armes et baluchons au régime de N'Djamena font leur entrée dans ce gouvernement de transition. Il s'agit de Cheikh Ibni Oumar. Il se voit confier le portefeuille des chargés de réconciliation nationale et de dialogue, un département nouvellement créé, et Abdraman Koulamala, conseiller en communication du maréchal président défunt, prend la reine de la communication, rôle qu'il a joué pendant qu'il était en rébellion. La plupart des ministres de défunt président sont maintenus à leur poste. Parmi les candidats malheureux à la dernière élection présidentielle de 2021, Madame Lydie Biasunda, la seule femme parmi les 7 candidats en liste, a été consulée.
Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Madame Lydie Biasunda.
Un département longtemps occupé par les hommes, André Kodumadjinga.
Ajoutons pour rappel que selon l'AFP, Salé Kebzabo, qui était le principal opposant au défunt président Idriss Déby Itno, a reconnu dimanche les nouvelles autorités et 2 membres de son parti, l'UNDR, ont été nommés au poste de ministre de l'élevage et de secrétaire général adjoint du gouvernement. On reconnaît l'autorité du CMT, sinon on ne va pas être au gouvernement, a déclaré à l'AFP M. Kebzabo. Et puis le porte-parole du dernier gouvernement, Chérif Mahamat Zen, est nommé ministre des Affaires étrangères, poste qu'il a déjà occupé de 2018 à 2020. Au Niger, 16 soldats ont été tués et un porté disparu pendant le week-end dans une embuscade dans l'ouest du pays. Nathalie Barge fait le point.
16 soldats nigériens ont été tués et un autre est porté disparu à la suite d'une embuscade tendue samedi par des hommes armés contre une patrouille de la garde nationale dans la région de Tawa, proche du Mali, ont indiqué hier soir les autorités locales. Les militaires sont tombés dans une embuscade aux environs de 14 heures dans le département de Tilia. Le bilan de cette attaque est de 16 morts et 6 blessés et un porté disparu, a annoncé à la télévision publique Ibrahim Miko, le secrétaire général du gouvernorat de Tawa. Par ailleurs, 24 terroristes présumés capturés mercredi dans la région de Tillaberi ont été tués alors qu'ils tentaient de s'évader, selon un communiqué du gouvernement publié hier soir. Le 28 avril, des renseignements ont fait état d'un regroupement de présumés terroristes au nord de Chinegodar qui projetait une attaque sur Bani Bangou. Après avoir été capturés, les détenus ont tenté de s'enfuir dans la nuit du 29 au 30 avril. N'ayant pas obtempéré au tir de sommation, ils ont été mortellement atteints, indique le communiqué.
Et au Nigeria, un officier et 7 civils ont été tués ce week-end dans des attaques djihadistes contre 2 bases de l'armée dans l'état de Borno, indiquent des sources militaires. Le point avec Michel Joseph.
Des djihadistes à bord de camions et sur des motos ont attaqué hier une base à Adjiri, près de Maïdougouri. Ils ont réussi à y pénétrer au bout de 2 heures de combat, forçant les militaires à battre en retraite. Le commandant de la base et 6 civils ont été tués. Les assaillants ont ensuite pris la fuite en emportant des armes de la base. Samedi soir, les djihadistes ont attaqué une autre base de l'état de Borno, à Ran, mais ils ont été repoussés. Ils sont arrivés à bord de 6 camions armés. 2 des véhicules ont été touchés par des tirs d'artillerie et les 4 autres ont pris la fuite, selon l'armée, précisant qu'un civil a succombé à ses blessures. Né en 2016 de la dissidence d'une branche du groupe Boko Haram, l'ISWAP multiplie les attaques contre des bases militaires, les embuscades contre les soldats et les enlèvements de voyageurs. Depuis 2019, l'armée s'est retirée des villages et des bases de petite taille pour s'installer dans des garnisons fortifiées. Cette stratégie suscite la critique de ceux qui estiment qu'elle permet aux islamistes armés de se mouvoir librement dans les zones rurales.
La Minute Éco, John Linden.
L'État gabonais s'est totalement retiré de l'actionnariat de 3 grandes entreprises, en l'occurrence la Banque internationale pour l'industrie du Gabon, où il détenait 41%, l'Union gabonaise de banque 26% et Gabon Télécom 41%. Selon Financial Afrique, les actifs de l'État sont transférés vers le Fonds souverain de la République gabonaise, dont la gestion revient exclusivement au Fonds gabonais d'investissement stratégique. Expresso Sénégal, filiale du groupe télécom soudanais Soudatel, vient de lancer sa première carte eSIM, devenant ainsi le premier opérateur à introduire une SIM virtuelle au Sénégal. Contrairement à la carte SIM classique, la eSIM est une puce à mémoire vierge préinstallée dans les mobiles. 3 opérateurs principaux se disputent les parts dans le secteur des télécoms au Sénégal, Orange, Free et Expresso, qui comptent près de 19% de parts de marché. Une coalition de banques multilatérales de développement et de partenaires a promis un financement de plus de 17 milliards de dollars au total sur plusieurs années pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. Cette annonce de fonds a été faite à l'issue d'un événement en ligne de 2 jours sur le thème « Nourrir l'Afrique » organisé par la BAD et le Fonds international de développement agricole des Nations Unies.
Merci John. Et maintenant les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Le président de la CAF se rendra dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest à partir de mardi pour une visite de travail.
Oui, assisté du président de la FIFA Gianni Infantino, Patrice Motsepe se rendra en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria. Il entame cette visite par le pays de Didier Drogba, où il fera une annonce importante à Abidjan, qui portera notamment sur le championnat panafricain inter-école, avec une forte délégation composée également des vice-présidents de la CAF, du secrétaire général Véron Moussengo et les présidents des fédérations de la zone UFOAB. Le Sud-Africain se rendra ensuite à Freetown le mercredi, avant de conclure sa visite le lendemain à Monrovia.
On prend la direction de la RDC pour dire que 300 jeunes filles et garçons ont participé à la clinique Real Madrid.
Une première à Kinshasa qui inaugure la version de cette clinique dans le monde. Précision avec notre correspondant Valdo Simbo-Nyamba-Nyamba.
La clinique Real Madrid a fermé ses portes après 2 semaines de formation de 300 jeunes footballeurs congolais assurés par Carlos Albert et Manuel Gilles, 2 entraîneurs venus droit de Madrid afin d'assurer cette formation. Une première réussie pour l'organisateur Bob Richard Makandalele.
Ça n'a pas été facile, mais on a tenu parce que nous avions une vision, nous savions ce que nous voulions et on a réussi ensemble.
Une grande première en RDC qui inaugure également la version féminine de cette clinique à la grande satisfaction de Carlos Robles, ambassadeur d'Espagne en RDC.
Très content, très honoré qu'ils ont choisi la République démocratique du Congo pour venir ici pour la première fois et en plus commencer une expérience qui c'est la première dans le monde pour eux de faire une clinique complètement réservée aux filles.
Les parents de leur côté jettent des fleurs à l'organisateur.
Très magnifique. Parmi les 3 fois, mon fils est là jusqu'à ce jour. Félicitations à toute l'organisation.
Il est à noter que 5 de ces 300 jeunes vont bénéficier d'une bourse de la première dame de la RDC, Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
On
On reste dans la zone, au Gabon, sud du dossier Gaylor Kanga, la CAF a ouvert une enquête afin de vérifier les allégations de la Fédération Congolaise de Football Association sur l'usurpation d'identité présumée du footballeur gabonais.
Comme le veut la procédure, la CAF a donc saisi officiellement la Fédération Gabonaise de Football sur cette question qui menace le Gabon d'une disqualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. L'instance fêtière du football gabonais qui a jusqu'à ce mardi pour réagir l'a fait plutôt ce week-end à Libreville. Les détails avec notre correspondant Ismaël Obiang-Nzé dans la capitale gabonaise.
La sortie de la FEGAFOOT était attendue au sujet de cette affaire si embarrassante. Elle s'est défendue dans un communiqué. La Fédération Gabonaise de Football n'a donné aucune preuve publiquement sur la nationalité du joueur épinglé, mais un haut responsable de la FEGAFOOT déclare que ces preuves ont déjà été transmises à la Confédération Africaine de Football. Le mémoire répulsif apporte toutes les preuves irréfutables et formelles du parcours sportif en club et de l'éligibilité du joueur Gaylor Kanga Kaku au sein de la sélection A du Gabon, conformément aux dispositions réglementaires de la CAF et du Code civil, lit-on dans le communiqué fédéral. Né le 5 octobre 1985 à Kinshasa, selon la Fédération de la RDC, Gaylor Kanga aurait falsifié son identité et pris la nationalité gabonaise au moment de son arrivée dans le pays. Un peu plus d'un mois après la retentissante victoire des Panthères sur les Léopards de la République démocratique du Congo, la rencontre pourrait de nouveau se jouer, mais cette fois sur un terrain juridico-réglementaire. Pour l'heure, les Panthères sont sous pression et contrainte de se cantonner une fois encore à la décision de la CAF, comme ce fut le cas pour le match face à la Gambie. Libreville, Ismaël Obiang-Nzé pour VO Afrique.
Merci Élisée. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Il ne fait pas bon être journaliste au Tchad, c'est du moins ce qu'estime Reporters sans frontières, qui place le pays au 123e rang dans le classement mondial de la liberté de la presse. Reporters sans frontières ajoute qu'entre 2018 et juillet 2019, les réseaux sociaux ont été coupés pendant 470 jours consécutifs, faisant du Tchad l'un des pires cybercenseurs du continent africain ces dernières années. Sur place, l'Union des journalistes du Tchad s'inquiète de la sécurité et de la protection des journalistes. Voyons cela dans cet élément de John Linden.
Ces dernières années, la presse tchadienne n'a pas échappé à des multiples problèmes. Outre la crise économique qui frappe de plein fouet plusieurs médias, la crise sanitaire liée au Covid-19 est venue en rajouter aux difficultés rencontrées par le secteur de la presse. Abbas Mahmoud, président de l'Union des journalistes du Tchad.
Certains journaux ont vu leurs ressources chuter, surtout la presse écrite. N'ont pas pu tenir le coup. Certains ont arrêté de paraître depuis presque un an. La presse en ligne épargnait un peu les conséquences de la crise sanitaire. La même chose pour les radios et les télévisions. C'est pourquoi nous, l'IJT, nous avons mené des démarches auprès des autorités afin de venir en aide auprès de la presse tchadienne. C'est pourquoi le gouvernement nous a octroyer une aide de 70 millions de francs CFA. C'est peu, mais quand même, ça a aidé certains de maintenir leur programme habituel.
Depuis la mort du maréchal Idriss Déby Itno, qui a passé 30 ans au pouvoir, son fils, le jeune général Mahamat Idriss Déby, a pris le pouvoir à la tête d'une junte de 15 généraux, le Conseil militaire des transitions. Le nouvel homme fort, général de corps d'armée de 37 ans et jusqu'alors chef de la toute-puissante garde présidentielle, s'est également autoproclamé président de la République. Il s'est arrogé et promet des élections libres et démocratiques dans 18 mois, ainsi qu'un dialogue national inclusif. Quelle est la place de la presse dans ce contexte? Le président de l'Union des journalistes du Tchad.
La presse tchadienne a joué dans le passé un rôle très important en accompagnant les processus démocratiques depuis son déclenchement en 1990 jusqu'à la dernière élection présidentielle organisée il y a cela quelques semaines. Les médias seront là, l'Union des journalistes tchadiens, l'Organisation fédérale des journalistes du Tchad sera là pour marquer cette période à travers des propositions et des recommandations pour améliorer davantage la participation et la contribution de la presse tchadienne dans les processus démocratiques, dans la consolidation de la paix sociale et le renforcement de la démocratie au Tchad.
Ces dernières semaines, le climat social est resté très tendu au Tchad. Beaucoup de journalistes ont fait l'année dernière l'objet d'arrestations, de maltraitances et de bavures policières dans les exercices de leur métier.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Claire Morin-Jibour avec vous. À l'occasion de la journée internationale de la presse, quelle est la situation dans votre pays pour la radio, la télévision, la presse écrite ou le web? Les journalistes sont-ils libres de faire leur travail? Certains journalistes sont aussi très mal payés. Un état de la presse chez vous. Venez en discuter en direct ce soir dans À votre avis à 18h05, temps universel sur VOA Afrique, en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique.
Après 10 années d'exil au Ghana, 6 personnalités proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ont regagné leur pays ce vendredi 30 avril. Un retour rendu possible grâce aux négociations entre les gouvernements ivoiriens et ghanéens, supervisées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une arrivée qui intervient alors que le retour en terre ivoirienne de Laurent Gbagbo semble imminent. D'Abidjan, notre correspondant Siri Kibaro.
Justin, Connie Katinan, Damana Picas, Jeannette Koudou, la sœur de l'ex-président Laurent Gbagbo, figurent sur la liste des cadres du Front Populaire Ivoirien rentrés en Côte d'Ivoire. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un important dispositif sécuritaire maintient à bonne distance les supporters venus les accueillir. Damana Picas, celui qui en 2010 arrachait en direct à la télévision nationale, des mains d'un membre de la commission électorale indépendante, la liste des résultats provisoires, est revenu sur les conditions de vie au Ghana. Un pays où de nombreux proches de l'ex-président Laurent Gbagbo ont trouvé refuge après la crise post-électorale en 2011. Ce retour en Côte d'Ivoire qui intervient avec l'accord du gouvernement est avant tout pour préparer l'arrivée de leur leader Laurent Gbagbo, celui qui est désormais libre de rentrer dans son pays après son acquittement par la Cour pénale internationale le 31 mars dernier. En marge de l'arrivée des 6 personnalités proches de l'ex-chef d'État en signe d'apaisement politique, la militante Pulchéri Balé, arrêtée en août dernier lors de la vague de contestation du troisième mandat d'Alassane Ouattara, a été libérée après 8 mois de détention provisoire. À sa libération, ses premiers mots ont été des mots de remerciement.
Vous êtes mobilisés dans toutes vos couches et nous n'avons pas le droit de vous trahir. Notre priorité réside dans votre bien-être à travers l'instauration de l'État.
Il y a quelques semaines, le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il était favorable à un retour de Laurent Gbagbo. Il a aussi indiqué que les frais de voyage de sa famille et lui seraient pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Des rencontres entre le Premier ministre Patrick Achi, les ministres de la Réconciliation, Kwadio Konan-Bertin, de l'Intérieur, Vagondo Diomandé et une délégation du Front Populaire Ivoirien conduite par Asso Adou ont lieu en ce moment. Des échanges qui devraient aboutir à l'annonce de la date du retour en terre ivoirienne de Laurent Gbagbo. Siri Kibaro, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Mali, controverse, surtout dans le nord, autour d'un projet de réorganisation administrative du territoire national par le gouvernement de transition. Le gouvernement n'a pas encore donné les détails du projet. Mais déjà, dans la région de Tombouctou, les populations ne cachent pas leur rejet d'une éventuelle réorganisation territoriale. Pourquoi une éventuelle réorganisation du territoire national suscite-t-elle autant de rejets? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
La réorganisation administrative du territoire national figure en place des missions que la transition a assignées au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et des parties du projet sur lesquelles ce ministère travaille ont été partagées avec les populations juste à l'issue des travaux préliminaires qui se sont déroulés dans la capitale Bamako. À Tombouctou, dans le cercle de Niafenké, au nord, la société civile est vent debout contre le dit projet. Hamadoun Touré est porte-parole de l'organisation de la société civile du cercle de Niafenké.
Monsieur le gouverneur, ce projet du gouvernement à l'État a un caractère plus politique qu'administratif et compromet dangereusement la quiétude et le vivre ensemble auquel aspirons nos populations.
En plus de la préservation de la quiétude, le potentiel hydroélectrique et le poids économique du cercle de Niafenké sont, selon les ressortissants, des atouts pour en faire une région. Mais pour l'expert des questions de décentralisation, Ibrahim Assila, la réorganisation territoriale est du ressort de l'État.
La circonscription administrative, c'est-à-dire dans le cas du Mali, la région, le cercle et l'arrondissement, sont des espaces du territoire définis par l'État pour assurer ses missions de service public.
Si le découpage ou la réorganisation est du domaine régalien de l'État, elles sont cependant nombreuses. La population a estimé que, compte tenu de la crise sécuritaire et sanitaire que connaît le Mali, la transition, qui n'a plus beaucoup de temps, doit se consacrer à l'organisation de futures élections dont les dates sont déjà connues. Hamidou Traoré, citoyen de Niafenké.
Il n'était pas séant pour une équipe de transition de vouloir aller à une réorganisation ou à un découpage. Nous sommes dans une situation de crise. 80% du territoire n'est pas sous le contrôle de l'État en tant que tel. La priorité, à mon sens, c'est de pouvoir stabiliser le pays.
Le comité d'orientation stratégique, dont les travaux ont démarré le 19 avril, travaille sur les réformes institutionnelles et politiques. Face au tollé, tout porte à croire que des discussions seront ouvertes dans les jours à venir pour essayer d'accorder le violon. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
Au Burkina Faso, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, Koudougou, c'est là que s'est tenu Koudougou Doc, l'un des grands festivals de films documentaires de la sous-région. Cette année, une trentaine d'œuvres d'Afrique et du monde entier ont été projetées lors de cette manifestation qui en était à sa 8e édition. Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, était à Koudougou pour Koudougou Doc. Son reportage.
En 2005, la multinationale achète du gasoil mexicain de mauvaise qualité. Dans le jargon du pétrole, on appelle ça du coquer nafta.
Ici, à la cité universitaire, deux documentaires sont au programme pour ce soir. Des étudiants sont là. Ils suivent avec attention les deux films, dont l'un sur une catastrophe environnementale.
Une atteinte grave a été portée contre la santé des Ivoiriens.
Nous sommes à Koudougou Doc. Dioda Diande est une étudiante.
Ça m'a suscité beaucoup d'émotions. Je suis en même temps indien parce que j'ai suivi. On voit une image de l'Afrique vraiment ternie. Et ça me rappelle vraiment la question que Joseph Kizerbo y a posée et que jusque-là, on n'a pas trouvé la réponse. À quand l'Afrique?
Inoussa Kirakoya, aussi étudiant.
Au-delà du documentaire qui est là, on permet à chacun de donner son point de vue.
Aux côtés des étudiants, des autorités du pays suivent ces films.
C'est l'aspect éduquer notre jeunesse quant à sa responsabilité sur le devenir de notre société.
Aziz Bamogo est le vice-président du CSC, le Conseil supérieur de la communication.
Nous, quand on était étudiants, et un peu eux d'ailleurs aussi, on aime beaucoup critiquer l'ancien colon, critiquer les gouvernants, critiquer ceci, critiquer cela. Mais la vérité, c'est que c'est nous qui critiquons là, qui venons au pouvoir et qui gérons le pays.
Depuis des années, ce festival se tient ici à Koudougou. Les organisateurs, en plus de promouvoir ce genre cinématographique, le documentaire veut apprendre l'histoire de l'Afrique aux jeunes Africains.
Notre principale vraiment ligne, c'est de comment on reconstruit l'imaginaire des Africains.
Michel Zango est le directeur artistique de Koudougou Doc.
Pendant longtemps, le réel de l'Afrique a été montré par un œil extérieur. Nous voulons corriger ça. Nous faisons du cinéma réel en Afrique. Les Africains sont les premiers prioritaires à voir ce cinéma.
Les organisateurs se penchent déjà sur la prochaine édition, prévue en 2022. Lamine Traoré, Koudougou, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonjour.